Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour et bienvenue à l'émission Dossier bizarre. Ici Tristan.
Hey, là, là.
Tristan Brunet-Dupont.
Bonjour Tristan Brunet-Dupont.
Ça va bien, Jason?
Ça va très bien, toi-même.
Oui, ça va super bien, merci. Content de vous retrouver
oui.
À l'émission Dossier bizarre aujourd'hui. Tu vas nous présenter un sujet. Inusité.
Ben, c'est comme un peu. On a parlé, tu sais, dans le dernier épisode, on a parlé des faits scientifiques qui nous permettent de peut-être imaginer qu'il y a de la vie ailleurs. C'est très scientifique, c'était très terre à terre. On va rester très terre à terre encore une fois aujourd'hui. On a fait un épisode dans la première saison qui parlait du côté mystique des nazis puis leurs croyances un peu ésotériques et bon, qu'on était un peu wom-wom, un peu étrange de ce côté-là. Là, on va y aller avec. On va un peu démystifier le personnage d'Adolf Hitler.
Ah, ok, ouais.
Adolf Hitler qui a commencé sa carrière politique dans les années 1920. Fait qu'on peut dire que ça fait à peu près 100 ans qu'il aurait commencé sa carrière politique, là, à peu près. Et en 2020, quand on parle d'Adolf Hitler, hein, c'est un espèce de monstre plus grand que nature.
Oui.
Vraiment, là, ah, c'est comme le personnage Adolf Hitler, le méchant ultime qui... Il est déshumanisé à un certain, d'un certain point parce que c'est tellement rendu gros son histoire et on l'a perpétué avec les années, tout ça. Il a grossi, 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 grossi. Et c'était un homme bien ordinaire, Adolf Hitler, dans ce sens que il était pas magique, il était pas mystique, il était bien ordinaire. Il était bien ordinaire. Parce que là, on l'a comparé durant la Deuxième Guerre mondiale, la première moitié de la Deuxième Guerre mondiale principalement, on l'a comparé aux grands généraux de l'histoire mondiale. On peut penser à César. César était considéré comme un général, un tacticien hors pair. Alexandre le Grand, Napoléon, bon, il y en a eu des comme ça qui ont marqué l'histoire militaire un peu de la planète en étant des génies de la stratégie militaire. On a comparé Hitler un peu à ça durant la première guerre la première moitié de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il a fait des invasions absolument incroyables.
Oui.
Il y avait des stratégies absolument incroyables. Mais faut dire que Adolf Hitler était entouré de généraux de génie à cette époque.
Exact, oui.
Mais il y a eu des petites affaires qui se sont passées aussi dans sa vie personnelle, dans sa vie de politicien, dans sa vie de dans sa carrière de dirigeant militaire, de dictateur militaire, de tyran. Qui montre que ben, finalement, il était peut-être pas si magique que ça, Adolf Hitler, et son mythe a juste grossi avec les années.
Ah, ok, oui, donc cet épisode va ressembler un peu à quand tu nous avais appris des choses sur Elvis.
Ben oui, c'est un peu le même format.
Ok.
Sensiblement le même format, et on va voir qu'il y a peut-être même des affaires qui se ressemblent.
Ok.
J'en dis pas plus pour tout de suite, là. Juste comme ça, là, si jamais il y a des gens qui écoutent la balado-diffusion, puis peu importe le sujet, c'est des gens qui sont très férus sur un sujet en particulier. Comme par exemple, j'en connais des gens, moi, là qui connaissent pratiquement la grosseur des orteils d'Adolf Hitler, tellement ils ont étudié et lu sur le sujet. On a un temps très limité. C'est pas un documentaire qu'on fait aujourd'hui, là. On va toucher à quelques petits faits à gauche, à droite. On effleure certains événements de la vie d'Adolf Hitler, mais on n'ira pas en détail dans absolument tout ce qu'il a fait. Alors, c'est sûr que si vous écoutez la balado-diffusion puis que vous connaissez déjà énormément de faits sur Adolf Hitler, vous allez pouvoir dire, ben là, vous avez pas parlé de ça. C'est sûr et certain. On y va, nous autres, là, avec des faits qu'on connaît moins un peu à propos de la personne et non pas du personnage, mais de l'homme, Adolf Hitler. Et on va se limiter à ça, bien sûr, dans le temps qu'on a. Faire 22 émissions de 3 heures sur Adolf Hitler, on pourrait peut-être aller plus en détail, mais là, on va se limiter à ça.
C'est bon, ça.
On va y aller plus ou moins en ordre chronologique.
OK.
Première question que je te pose, savais-tu qu'Adolf Hitler, techniquement, ne devrait pas s'appeler Hitler?
Ah, non, je savais pas.
Tu savais pas ça, hein?
Non.
En fait, Adolf Hitler, le nom Hitler aujourd'hui est reconnu à travers la planète.
Ben oui,
Hitler. Tout le monde, c'est Adolf Hitler, Hitler. Puis on voit pratiquement personne qui porte ce nom-là.
C'est comme son nom de famille,
non? C'est son nom de famille. Donc, Adolf Hitler, c'est le nom qu'on reconnaît. Dès qu'on dit Hitler, Deuxième Guerre mondiale, le tyran, le dictateur en Allemagne, le fou, il a tué des juifs, c'est un malade.
Exact. Dada.
Mais techniquement, c'est pas de ce nom-là qu'on aurait dû retenir, et c'est pas ce nom-là qu'il aurait dû avoir. Je mets ça en contexte.
Okay.
Son père, qui était un certain Alois Schickelgruber. Schickelgruber.
Oh, nice prononciation.
Oui, hein,
bien joué.
J'ai pratiqué mon allemand. En fait, lui, il est né d'une mère monoparentale.
OK, oui.
Donc, le Schickelgruber, c'est le nom de sa mère.
Ah.
Donc, il a eu une maman monoparentale pendant un certain temps dans sa vie. Un jour, la mère de Aloïs rencontre un homme et elle le marie. Il devient le papa de Aloïs Schickelgruber.
D'accord.
Et lui dit, un peu plus tard dans sa vie, alors qu'il a à peu près 40 ans, « Mais j'aimerais bien prendre le nom de mon papa d'adoption qui est Johann Hilder. »
Ah, OK.
Alors, il décide d'aller officiellement faire changer son nom, ce qui se faisait avec le prêtre ou le curé du village à cette époque-là, ou du coin. Et le monsieur était dur de la feuille un petit peu. Alors, quand il a écrit le nouveau nom, il a écrit Aloïs Hitler et non pas Hilder.
Ah, ouais!
Et ainsi est né le nom Hitler pour le papa de Adolf Hitler.
Ah ben, ça veut dire que c'est tiré d'une erreur d'écoute.
Absolument, une erreur de dur de la feuille.
Je pensais que Hitler, c'était un nom de famille commun en Allemagne.
J'imagine que le nom est commun, c'est peut-être pour ça qu'il a fait l'erreur, le monsieur. Peut-être que Hitler était plus commun que Hilder, et il a fait l'erreur en retranscrivant le nom de du père d'adoption, donc du beau-père de Aloïs Schickelgruber, qui était Johann Hilder, et il a écrit Hitler au lieu de Hilder, et à partir de ce moment-là, ce fut Aloïs Hitler qui a eu des enfants, qui ont été nommés Hitler.
Premier fait que j'ignorais totalement.
Hey, c'est le fun, hein? Ben je suis content quand j'ai trouvé ça. C'est super anodin, mais en même temps, ça nous fait reculer et dire hey, peut-être que dans un univers parallèle, ils disent « Ouais, le dictateur Hilder, là, hey, qui est pas fin, lui. Hein? » Ben, on sait pas.
Ou même le nom de famille, l'autre, là, le
compliqué. Oui, le Schickelgruber. Peut-être que dans un autre univers, Aloïs n'a jamais changé son nom et c'est Adolf Schickelgruber.
Exactement.
Le grand méchant dictateur allemand. Alors, mais c'est quand même le fun de comment, qu'à l'origine même, avant la naissance d'Adolf Hitler, le nom a été changé et par une erreur de bureaucratique quasiment, c'est le nom Hitler qui est ressorti et ne se doutait probablement pas Aloïs que son fils allait marquer l'histoire de l'humanité au point où il l'a fait à ce moment-là.
Ouais. Effectivement, d'une mauvaise pour une mauvaise raison. Bien
absolument, absolument, absolument. Alors Adolf Hitler, hein, on lui attribue le parti nazi, la naissance du parti nazi, on lui attribue la création du nazisme, du Troisième Reich, de tout ça. Adolf Hitler a, à l'origine, là, était soldat dans l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale.
Mm-hmm.
Donc, la guerre de 14-18, il était soldat allemand. Il a participé à des combats, il était un bon soldat, a eu quelques décorations. Bon, c'est quand même pas nécessairement démarqué comme un héros de la guerre, mais était un bon soldat.
Mm-hmm.
La guerre se termine. L'Allemagne est humiliée, autant d'un point de vue là, militaire, point de vue politique, tout, ça va pas bien. Parce que bon, on avait promis aux Allemands que cette guerre-là allait mettre le peuple allemand comme étant le peuple supérieur de la Terre. Ça calque un peu. Hein. La Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a des thèmes qui se rapprochent beaucoup. Et finalement, l'Allemagne est défaite par les pays alliés. Et on arrive à la capitulation de l'Allemagne et la signature du traité de Versailles. Signature du traité de Versailles qui s'est fait le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les alliés à la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce traité-là, non seulement les Allemands ont été humiliés durant la guerre et à la fin de la guerre avec leur défaite, leur capitulation, mais ce traité-là va les humilier encore plus. En ce sens où on les limite à absolument le minimum.
Okay. Donc,
le chaos s'installe en Allemagne. On a des dispositions militaires qui sont placées. Ça veut dire que l'armée de l'Allemagne, on ne peut plus avoir plus de 100 000 soldats pour le pays au grand complet. On est limité à ça.
Ah ouais, okay.
Donc, l'Allemagne doit se limiter à 100 000 soldats. On a le droit d'avoir certaines armes de base, mais on n'a plus le droit d'avoir de chars d'assaut, plus de flotte marine. Un paquet de dispositions qui sont placées comme ça pour dire « Vous ferez plus ça, hein, vous autres, là, c'est fini! » Alors, on se fait, encore une fois, donner une claque au visage carrément en Allemagne à ce moment-là, au moment de la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919. Donc là, le pays est à feu et à sang. Économiquement, le pays est détruit complètement. Là, il y a une inflation absolument incroyable en Allemagne. Là, on faisait des blagues avec mes profs d'histoire. Ils disaient qu'il fallait amener une barouette d'argent pour aller chercher un pain. Puis quand t'arrivais, le temps de partir de chez vous pour arriver au magasin, le prix avait encore changé. Puis t'avais besoin d'une deuxième barouette d'argent.
Oh my God.
C'était quasiment ça l'image que les gens avaient de l'Allemagne à cette époque-là. Okay. Alors militairement parlant, le pays est détruit. Socialement, le pays est détruit. Économiquement, le pays est détruit. On ne veut pas prendre le blâme à nulle part aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais en Allemagne plutôt. Les généraux veulent pas prendre le blâme de la défaite, les politiciens veulent pas prendre le blâme de la défaite. Qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence déjà à semer la graine
de
blâmer les Juifs cette époque-là pour la défaite de l'Allemagne et on blâme un paquet d'autres groupes, mais on va commencer à faire de l'antisémitisme aussi envers les Juifs à ce moment-là.
Donc c'est pas nécessairement, tu sais, pour mettons qu'on se pose la question vite vite. Moi, je suis pas un très grand connaisseur de cette époque-là. C'est pas Hitler qui a semé cette graine de la haine envers les Juifs. Ça existait bien avant.
C'était déjà, ça couvait.
Okay,
ça couvait déjà. Et on cherchait des boucs émissaires pour la défaite de l'Allemagne. Mm. Les Juifs en faisaient partie.
Okay, ouais, c'est
à ce moment-là, déjà en 1919, ça commençait déjà à couver. C'était des partis qui étaient ultra-nationalistes, qui étaient au pouvoir durant la Première Guerre mondiale. On a continué dans cette tendance politique-là. Mm. Arrive en 1919, M. Hitler, qui était soldat, n'a pas de formation comme tel. On sait, Adolf Hitler aurait voulu être artiste.
Oui, c'est vrai, oui.
On n'embarquera pas là-dedans, parce que ça, c'est connu quand même de pas mal tout le monde. Mais il n'a pas de formation.
Mm-hmm.
Pas de formation professionnelle, n'a pas de métier, ne connaît pas grand-chose à la vie, M. Hitler, quand il sort de l'armée après la guerre. Alors, il reste collé sur l'armée.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'armée, elle, voit l'état de son pays, voit qu'elle est très limitée, parce que, bon, il y a des contraintes absolument épouvantables là, dans le traité de Versailles pour l'armée. Mais ils veulent savoir, parce que là, il y a une transformation politique qui va s'effectuer en Allemagne. Ils n'ont pas le choix, là. C'est le chaos politique complet dans le pays. Alors, l'armée veut savoir qu'est-ce qui va se passer et avec qui, à quel cheval on va choisir, là.
Okay,
derrière de qui on va se placer.
Qui pourrait augmenter cette propagande allemande.
Et nous aider à reprendre des lettres de noblesse en tant que corps armé ou en tant que force militaire. Alors, l'armée va choisir des soldats qu'ils vont transformer plus ou moins en espions. Et ils vont les envoyer dans les différents regroupements où il semble y avoir une espèce de brasier politique qui s'installe. Donc, on envoie des soldats dans des groupes de discussion politique où là, on sent qu'il y a peut-être un parti qui va naître de ça. Parce qu'on veut garder un œil. On veut savoir vers qui on va se tourner pour peut-être avoir des supports éventuellement si ce groupe-là prend du pouvoir.
OK, ouais, je comprends.
Adolf Hitler fait partie de ces soldats-là.
Ah ouais.
Et Adolf Hitler est assigné à un groupe de discussion qui n'est pas du tout un parti politique encore. C'est un groupe de rencontres qui se rencontre dans une légendaire brasserie à Munich qui va devenir un peu le premier quartier général du parti nazi.
Ah ouais.
Et il envoie Adolf Hitler dans ce petit lieu où se rencontrent des gens, des intellectuels, des philosophes qui se rencontrent pour discuter de politique. La plupart, c'est des gens de droite, très nationalistes, presque à l'extrême, qui se rencontrent et qui commencent à discuter. Ce groupe-là est fondé par la société de Toul, qui est une société plus ou moins secrète, qui, elle, met de l'avant, puis on en a parlé, puis on n'en parle pas là-dedans non plus, mais la race aryenne qui est supérieure, les symboles, la fameuse croix gammée, qui serait un symbole comme quoi les Allemands étaient partout dans le monde, il y a une très, très longue, très, très lointaine époque et qui était supérieure à tout le monde. Bref, cette société-là appuie ses dires, appuie ses croyances-là.
Okay, oui.
Et il fonde ce groupe de discussion-là dans la brasserie à Munich, où Adolf Hitler va devenir une espèce d'espion.
Mm-hmm. Donc lui, il s'est retrouvé là.
Assigné par l'armée.
Oui, c'est ça. Pas parce qu'il le voulait, pas parce qu'il recherchait, il est tombé là.
Il savait pas qu'il existait.
Exactement.
Il s'est fait dire, va là, puis écoute ce qu'ils disent.
OK, oui.
Alors, il y a été, et il a participé aux discussions, et tranquillement, pas vite, il a été séduit par le discours des gens qui étaient dans la brasserie. Et ces gens-là ont fini par former un parti.
OK.
Supporté toujours par la société Toul, qui était la société plus ou moins mystique là, en arrière de tout ça. Et ils ont fondé un parti qui s'appelait le Parti travailliste allemand. Le Parti des travailleurs allemands. Très socialiste, très populiste également. Ce parti-là va devenir éventuellement le Parti socialiste des travailleurs allemands.
Okay.
Et il va se transformer éventuellement et devenir le parti nazi.
Ah ouais.
Alors, c'est là que la fondation s'est faite, mais il n'était pas membre fondateur comme tel.
Ben ouais,
il a fait partie des premiers membres. Il a gravi les échelons très rapidement parce que c'était un orateur hors pair.
Mm-hmm.
Adolf Hitler était un orateur. Quand il prenait, il montait sur la scène avec sa bière, là, puis il partait.
Exactement.
Les gens étaient subjugués.
Mm-hmm.
Il l'écoutait, il bougeait, il était passionné dans son discours. Alors, on l'a nommé ministre de la propagande.
Plutôt
responsable de la propagande le parti qui était le Parti socialiste des travailleurs allemands à l'époque. Et il va gravir les échelons tranquillement. Et au fil des transformations, on ne fera pas l'historique au complet parce que ça se fait durant plusieurs années, mais ça devient le Parti nazi. Parti nazi qui éventuellement va prendre de la place politiquement de manière officielle à un moment donné.
Uh-huh.
Et Adolf Hitler va se retrouver à la tête du Parti nazi. Entre les deux, il a été emprisonné parce qu'il a fait une tentative de coup d'État. qui a échoué. Il a été sanctionné à 5 ans de prison. Il a fait seulement 9 mois parce qu'il y avait beaucoup d'appui politique.
Ah, OK. Ah, oh, je ne savais pas celle-là non plus.
Ça se passait à cette époque-là aussi. Ah, ouais, ouais, ben, tu sais, peut-être qu'on pourrait réduire sa peine un petit peu. Finalement, il a fait seulement 9 mois.
OK, il était rendu. Les gens du parti et tout ont commencé à concevoir là, l'idée. Oui. Justement, d'une remontée du pouvoir allemand au niveau international, quitte à le déclenchement éventuel d'une guerre mondiale.
Ce qui n'était pas dans les, ce qui n'était pas vraiment prévisible à cette époque-là. Là, on parle des années 20, là, entre 20 et 30 environ. Donc, c'était pas vraiment prévisible que Hitler allait aller en guerre éventuellement. Mm-hmm. On le voyait même pas à la tête du pays.
Ah, c'est ça.
De la manière qu'il a pris le pouvoir, là, c'est absolument épouvantable. Il y a eu des purges, des meurtres. Oui. Ça a été absolument épouvantable à cette époque-là. Mais il a, entre le moment où il était le petit espion dans la brasserie et le temps qu'il est devenu chef du parti nazi, entre les deux, il y a eu un coup d'État qui a été tenté. Ça a été catastrophique. Ça a pas fonctionné, mais pas du tout. Il s'est retrouvé en prison. Moment où il en a profité pour écrire son fameux livre Mon combat, Mein Kampf, qui est son espèce de livre personnel sur qu'est-ce qui marchait pas en Allemagne et plein de propagande, encore une fois, et de fausses croyances. Ah. Mais il a pris le temps de l'écrire durant son emprisonnement et par la suite, il est devenu chef du parti nazi qui, après, des coups foireux ici et là, ont pris une certaine partie du pouvoir, ont gagné quelques sièges au Parlement parce qu'on essayait d'utiliser la démocratie à cette époque-là. Mm-hmm. Et au moment où on utilisait la démocratie, il y avait des votes là, qui étaient démocratiques, c'était une forme de scrutin qui était là, qui était établi. Le parti nazi a quand même pris quelques sièges, ont quand même fait élire des gens, ce qui leur a amené du financement. Ce qui leur a permis de grossir et de devenir de plus en plus populaire et d'avoir des centaines de milliers de membres. Et là, tranquillement, pas vite, le parti a pris une certaine ampleur. Et à partir de là, il y a d'autres petits événements qui se sont passés dans la vie d'Adolf Hitler qui peuvent être très, très, très intéressants. Au moment où il a pris une part du pouvoir, le financement lui a servi, entre autres, à acheter une belle cabane dans le bois.
OK. Ça, c'est avant la deuxième.
Là. Absolument. Là, on est en fin des années 1920, à cette époque-là. Alors, il est chef du parti, ils ont pris des sièges, il commence à avoir du financement, ça commence à être payant financièrement. Uh-huh. Il achète une maison là, de campagne où il va aller passer beaucoup de temps. Et dans cette maison de campagne-là, qu'est-ce qu'il fait? Il installe comme chef de la maisonnée, si on veut, sa demi-sœur. Son père a eu 3 femmes. Adolf Hitler est le fils de la 3e femme de son père, Aloïs, qui s'est marié avec une certaine Clara Politzel.
D'accord.
Politzel. Il y a plein de L, il n'y a pas beaucoup de voyelles. Là. Il y a une voyelle, puis il y a plein de consonnes. C'est ce Politzel qui, je pense, qu'on le prononce. Donc, sa 3e femme, à Aloïs Hitler, était cette femme-là. Donc, Hitler est né de cette femme-là. Avec une de ses sœurs, ils ont eu 6 enfants, si je me trompe pas, ensemble. Seulement 2 ont survécu jusqu'à l'âge adulte, dont Adolf Hitler et une de ses sœurs.
D'accord.
Mariage précédent, le père d'Adolf Hitler avait eu une autre fille qui s'appelait Angela. Et cette fille-là va devenir la maîtresse de maison, si on veut, celle qui va gérer la maisonnée de la maison de campagne. Parce que c'était une grande maison, il y avait des invités politiques qui venaient, ça prenait une gouvernante.
Je comprends. Ouais.
C'est la demi-sœur d'Adolf Hitler qui va aller s'installer là, avec sa fille qui s'appelait Gelly Rubal.
D'accord.
Gelly, c'est la fille de la demi-sœur, donc la demi-nièce, si on veut, d'Adolf Hitler.
Ouais, ben oui.
Et là, se passent certaines choses assez étranges à partir de ce moment-là. Adolf Hitler est amoureux de sa nièce.
De sa nièce?
De sa nièce, qui a 20 ans de moins que lui. Alors, elle a une vingtaine d'années, lui a un peu plus de 40 ans. Ils ont une vingtaine d'années de différence. Et à partir du moment où sa demi-sœur vient s'occuper de la maison de campagne avec sa fille, qui est la nièce d'Adolf Hitler, il ne la quitte plus. Partout où il va, on voit la nièce qui l'accompagne. Elle est toujours avec lui. Il lui achète tout ce qu'elle veut, lui paye tout ce qu'elle veut. Il est absolument là, l'équivalent peut-être du sugar daddy aujourd'hui là, qu'on appelle. Là. C'est un peu ça. Okay, la relation qu'ils ont entre les deux, la relation est douteuse un peu. On s'inquiète un peu aussi du côté du parti, l'image que ça donne, parce que là, faut penser, on est encore en mode démocratie en Allemagne.
Ouais, ouais.
Alors, le parti nazi veut prendre le pouvoir par la démocratie, par le vote. Mais là, notre chef a l'air d'avoir une relation intime un peu étrange avec sa nièce, qui est la moitié de son âge. Et publiquement, il se promène avec elle, comme si de rien n'était. Ils sont toujours ensemble. Toujours ensemble. Alors là, ça commence à créer des frictions à l'intérieur du parti. Ça commence à créer des situations un peu déplaisantes, un peu étranges.
On votera jamais pour lui. Je peux comprendre. Là, c'est clairement... C'est dégueulasse.
Ben oui. Puis à cette époque-là, c'était peut-être vu un peu différemment. L'autre... Puis ça, je trouve ça cocasse un peu quand j'ai regardé ce que le parti en pensait de ça. L'autre côté négatif qu'on voyait à ça, c'était s'il est célibataire, les femmes vont dire « Ah, moi, je vais voter pour lui. C'est un beau jeune célibataire. » Et là, il est peut-être plus si disponible que ça. Fait que ça refroidissait le vote féminin.
Ah,
on avait peur que ça fasse ça. Un peu comme une vedette,
ben
un
oui.
chanteur super connu. Puis là, il annonce qu'il y a une blonde. Là, soudainement, sa popularité baisse.
Exactement.
Parce que les filles disent, ah, ben là, je peux plus sortir avec, il y a une blonde.
Ah, c'est ça. Je viens d'avoir un épisode des Simpsons, justement, où, tu sais, quand les quatre, ils chantent le groupe, là, Homer s'en va en tournée. Puis là, il y a l'agent du groupe qui dit, Homer, tu dois dire que tu sors pas avec ta femme, Marge. T'es célibataire.
T'es plus marié, là, t'es célibataire.
Il dit à Marge, hey, Marge, juste pour le temps de la tournée, tu vas être célibataire. C'est exactement ça qui se passe. C'est un bon exemple.
Mais c'est exactement ça qu'on a peur d'être parti. On a peur de l'image que ça va projeter et on a peur aussi que les femmes soient moins intéressées par Adolf Hitler parce qu'il a une relation quelconque avec une femme. Même si c'est une relation complètement tordue et incestueuse, on reste quand même un peu inquiet de l'image que ça va donner pour les femmes qui pourraient voter pour le beau jeune homme célibataire à la tête du parti. Fait que, on va continuer avec Gelly Rubal après la pause, parce
Excellent.
Que ça se termine de manière triste et dramatique, cette
ah,
histoire,
ouais.
malheureusement.
Ben ah, oui. Là, ok, ouais, bon, ben, attends, ben ouais, t'écoutes plein de
suspense.
Plein de choses que j'apprends, qu'on apprend aujourd'hui sur Adolf Hitler. Les côtés, je dirais, déjà que lui, il était pas mal sombre, hein, on va se le dire.
Ouais.
C'était un démon.
Bon,
puis là, on y va avec les côtés encore plus inconnus et sombres, là, de ce personnage Adolf Hitler.
Ouais, absolument.
Alors, restez là, courte pause, on revient tout de suite après.
Ouais.
Les Dossiers Bizarres est une présentation de...
Pour tous vos besoins d'animation pour des réceptions de mariage, de graduation, de baptême de petits bébés, de party de bureau, de promotion professionnelle, de divorce, de funérailles, de fête d'extraction de dents de sagesse ou pour fêter une vasectomie. Confiez tous vos besoins à DJ Didier. Avec DJ Didier, vous aurez non seulement de la bonne musique, mais en plus, DJ Didier peut faire des bruits de laser, des bruits de moteur d'avion, et même des bruits d'explosion. Boum, boum, boum. Avec DJ Didier, vos fêtes seront exceptionnelles. Exceptionnelles.
Et nous sommes de retour à l'émission Dossier Bizarre. Aujourd'hui, Jason Lévesque nous parle d'Adolf Hitler.
Ou Hilder, s'il y avait
oui.
le nom qu'il était supposé d'avoir. Mais on disait ça durant la pause, là. Ça sonne moins bien. Hein? C'est comme moins...
Oui.
Adolf Hitler! C'est comme...
Ou Adolf Hilder.
Ça fait comme... Oh, une petite fleur, puis on est content. Puis je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas.
Non,
cas,
c'est vrai, c'est trop.
Peut-être juste parce qu'on est habitué, mais bon. Bref, en tout cas.
Ben, je savais pas, moi, en tout cas, que c'était...
Ben oui, son nom aurait pas dû être ça.
Exact, ça aurait dû être Adolf Hilder.
Ben donc. Oui.
Mais finalement, le gars qui a pris son nom en note...
Le curé dur de la feuille s'est trompé.
Il a dit Hitler.
Ben oui. C'est
voilà.
comme ça, ben c'est pas ça. Ben, c'est ça, j'ai mis. Ben, va-t'en chez vous. C'était fini.
Donc là, après avoir fait un peu en ordre chronologique l'histoire...
Ben c'est ça. Donc, il est devenu chef du parti nazi après avoir infiltré plus ou moins le parti naissant. Il a été vendu à l'idéologie, devient chef du parti. Le parti fait élire réussit à faire élire de ses candidats. On a du financement. Avec le financement, il achète une maison de campagne qui devient un peu son quartier général, si on veut, là, à cette époque-là. Il a aussi un appartement à Berlin, donc a les deux endroits. La maison, elle, elle est gérée par sa demi-sœur, et sa demi-sœur amène sa nièce, qui est Gelly Rubal, et Adolf Hitler est amoureux de sa nièce.
Et voilà, donc il y a une relation incestueuse, si
ouais, ben, en tout cas, je pense qu'on n'a jamais 100% prouvé qu'il y avait eu inceste, mais mettons que c'était assez clair pour tout le monde qui se passait des affaires pas clean. Donc, Gelly Rubal, qui est un peu sa protégée, qui a la moitié de son âge, elle a une vingtaine d'années, alors que lui en a 40 quelques, il la traîne partout, il lui donne tout. D'ailleurs, un exemple, Gelly Rubal n'avait pas une très belle voix.
Okay.
Elle avait pas une belle voix, la madame, mais pas pantoute. Mais elle s'était rentrée dans la tête qu'elle deviendrait chanteuse d'opéra. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Adolphe? Oh, il prend le téléphone. Il fait venir un prof d'opéra dans la maison. Tu vas y montrer à chanter de l'opéra.
Ah, ouais.
Ouais. Et c'est un peu ça qui va précipiter, d'ailleurs, la fin dramatique de cette histoire-là.
Okay.
Gelly Rubal, qui se rentre dans la tête qu'elle va devenir chanteuse d'opéra, elle veut poursuivre ses études et partir sa carrière de chanteuse d'opéra.
D'accord.
Alors, à un certain moment donné, elle décide au mois de septembre 1931, 17 ou 18 septembre 1931, elle annonce à Adolf Hitler qu'elle va quitter et aller faire sa carrière de chanteuse d'opéra, même okay. si elle est mauvaise.
Okay, ouais.
Elle s'est rentrée dans la tête qu'elle était bonne, elle, puis il n'y a rien à faire, elle est sûre de sa shot, elle veut y aller. Alors, elle dit qu'elle va quitter. Adolf Hitler se met en colère. Adolf Hitler était tellement possessif et contrôlant envers sa nièce, il a même congédié son chauffeur personnel parce qu'il trouvait qu'elle regardait pas mal.
Ah ouais.
Et il dit, fais de l'œil, là. Moi, je vais m'en débarrasser. C'était un rival dans sa tête.
Ouais, ben ouais.
Alors, c'était à ce point-là.
Okay.
Alors, quand elle lui annonce qu'elle va quitter, ils se chicanent les deux de manière assez intense et ça termine là, en grosse chicane. La mère, en fait, la demi-sœur d'Adolf Hitler doit intervenir.
Uh-huh.
Et elle réussit à calmer le jeu.
Okay, ouais.
Elle calme le jeu, elle quitte. Et là, les domestiques dans la maison disent que la chicane a repris. Adolf Hitler a quitté en claquant à la porte, vraiment très, très, très en colère. Il s'en va à Munich, si je me trompe pas. Donc, il quitte. Ça, okay. c'est l'histoire officielle.
Okay.
Quelques heures après, Gali Robal est enfermée dans sa chambre. La porte est barrée. On ne réussit pas à aller lui parler. Elle est là. On l'entend. Elle pleure. Elle sanglote. Elle fait du bruit. Et durant la soirée, début de la nuit, paf! Un coup de feu.
Ah, ouais.
Alors, là, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que la jeune nièce d'Adolf Hitler s'est donné la mort avec une arme à feu. Elle s'est suicidée. C'est l'histoire officielle toujours. L'arme à feu appartenait, c'était l'arme personnelle d'Adolf Hitler qui a été retrouvée sur les lieux.
Ah ouais.
On dit que la mère de Gali Robal a téléphoné à un proche collaborateur d'Adolf Hitler avant même d'appeler les secours, d'appeler la police, d'appeler l'ambulance, d'appeler qui que ce soit ou l'hôpital. Elle a appelé un collaborateur d'Adolf Hitler d'abord.
Ah ouais.
Qui lui a fait revenir Adolf Hitler qui a finalement constater le décès de sa nièce. Et l'histoire s'arrête plus ou moins là, mais il y a certains collaborateurs du parti qui, à certains moments, disaient « Ben, nous autres, on sait ce qui s'est passé, puis c'est pas tout à fait ça. » Mais on n'a jamais su la vérité à propos du décès de la nièce d'Adolf Hitler. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Ah ouais, c'est donc ben, je savais pas ça. Il en parle pas souvent dans les
documentaires. Non, ça aussi, c'est une histoire que j'avais pas vraiment entendu parler avant de commencer à faire mes recherches un peu. Moi, je m'attendais à m'en aller complètement dans une autre direction, mais là, avec le nom, avec moi aussi dans ma tête, c'est il avait fondé le parti nazi, alors que c'est pas le cas. La nièce, j'avais jamais entendu parler de ça. L'histoire du nom, qui a une erreur au moment de changer de nom, j'avais jamais entendu parler de ça. Fait que ça m'a permis moi aussi d'apprendre plein de petits faits comme ça.
Parce que souvent, les documentaires sur Hitler tombent là-dessus à télé. Souvent, c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'on parle vraiment beaucoup de la propagande.
Au moment où il était au pouvoir, là, à la fin des années 30, où là, c'est devenu un tyran, un conquérant finalement, et qu'il était dictateur. Mais avant ça, c'est un peu obscur. Puis sa vie personnelle est très peu connue encore aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
On n'en sait pas beaucoup sur sa vie personnelle, ce qui permet à des fois certains documentaires d'extrapoler sur certaines affaires, puis finalement, s'il n'y a rien de prouvé hors de tout doute. Comme la mort de Gali Robal, est-ce qu'il a contribué? Est-ce qu'il a mandaté quelqu'un? Est-ce qu'elle s'est suicidée vraiment? Il n'y a jamais personne qui va le savoir. Il y a même des suspects. Il y a une liste de suspects à un moment donné là, qui a été établie. Bon, Adolf Hitler en fait partie. Est-ce qu'il était vraiment parti? Ou est-ce que c'est une histoire, c'est une couverture, il a jamais quitté la maison? Bon, est-ce que... évidemment, lui, il fait partie de la liste des suspects. Rudolf Hess, qui était son plus proche collaborateur à l'époque, et qui a fait de la prison avec lui, qui a participé au coup d'État, qui a pas fonctionné, fait partie aussi. Martin Bormann, qui a tout le temps gravité autour du parti nazi, qui était un opportuniste, fait partie des suspects. Henrik Himmler, qui était le chef des SS. Bref, il y a plein de monde qui serait potentiellement... qui aurait pu potentiellement être le meurtrier de
c'est la ça. On dit qu'elle s'est enlevée la vie, mais la théorie du meurtre n'est pas écartée.
Il n'y a pas eu d'enquête.
Ok, c'est ça.
Je vous cache rien. Là. Il n'y a pas eu d'enquête, puis c'est pas une surprise pour personne. Au moment du décès de Gali Robal, ça a été un suicide, c'est fini, on n'en parle plus. Alors ça s'est terminé là. Pour cette histoire-là, fin dramatique et triste là, pour la jeune femme qui
en fait a juste subi la triste. Comme la triste vie d'être dans la vie d'Hitler.
Dans l'entourage d'Adolf Hitler, d'être de sa famille et d'être prise. Parce qu'elle était très amoureuse de lui.
Ah ouais, ok, c'était donc.
Elle était très, très amoureuse de lui. Elle avait aussi. Elle commençait à être triste parce qu'à l'époque, Adolf Hitler commençait à fréquenter Eva Braun, qui était celle qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Là, ils se sont mariés tout juste avant de mourir. Donc, il commençait à fréquenter cette femme-là aussi. Elle avait une rivale, bref.
Ah ouais, ok, ouais.
C'est comme un téléroman finalement.
Ouais, ben oui, c'est ça, exactement. Eh ben. Je l'ignorais celle-là
c'est,
aussi.
C'est encore une fois un petit fait qui est le fun à apprendre. Adolf Hitler, Tristan, oui. On se le cachera pas. On est en 2020, là, je pense qu'on peut ouvertement, en tout cas, moi je vais le dire ouvertement, les gens vivent de plus en plus, et c'était que la même chose à l'époque, mais on n'en parlait pas, de l'anxiété, de l'angoisse. Oui. On en vit tous. On a eu des périodes. Moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où je faisais de l'anxiété là, de manière relativement grave. Adolf Hitler vivait ça.
Okay.
Aussi. Au tout début de sa carrière politique, avait, à chaque fois qu'il avait des discours à faire, à chaque fois qu'il avait des situations tendues à vivre, mm-hmm. quand il avait des décisions importantes à prendre, il vivait de l'anxiété très, très aiguë. Et ça lui donnait, parce que bon, pour en avoir vécu moi-même, il y a des symptômes physiques aussi,
oui,
très
oui,
apparents oui. quand on fait de l'angoisse. Bon, ça peut être des maux de ventre, des maux de tête, des palpitations, ça peut être des démangeaisons, ça peut être des diarrhées, ça peut être des gaz, ça peut être, il y en a plein de symptômes. Et on attribue souvent ces symptômes physiques-là à une maladie physique, alors que c'est l'anxiété qui nous fait sentir ça.
Mm-hmm.
Adolf Hitler vivait ça.
Ah, OK.
Alors, on a tout le temps pensé que c'était un rat, un humain quasiment robotique, qui avait pas de sentiments. Mais lui, dans sa tête, il était très malade.
Ah ouais?
Il était très, très malade. Il était convaincu, en fait, là, au début des années 30, qu'il lui restait pas grand temps à vivre.
OK.
Il était convaincu que son état de santé allait faire qu'il allait mourir relativement jeune.
Ah ouais, OK.
Alors, il était convaincu de ça. Adolf Hitler étant un peu... il était paranoïaque et
hypochondriaque
aussi. Il était prêt à accepter n'importe quel traitement qui lui promettait d'aller mieux.
OK, ouais.
Adolf Hitler, en 1936, il a contacté un certain Théodore Morel. Théodore Morel, c'est un médecin généraliste. Un médecin qui a eu son diplôme là, dans les années 1909-1910. Un médecin généraliste, mais il s'est installé à Berlin et il est devenu un médecin spécialiste pour les vedettes de l'Allemagne pour les maladies transmises sexuellement.
OK.
Alors, il était un expert dans les maladies ou les infections transmissibles sexuellement. Donc, les stars de l'Allemagne allaient le consulter pour faire traiter différentes infections, différentes choses là, qu'il y avait entre les deux jambes à la fourche. il a fait sa carrière là-dessus. En 1936, Adolf Hitler le fait venir expressément à sa maison de campagne pour traiter son photographe et ami Henry Kaufmann, qui a pogné une gonorrhée.
Ah, OK.
Pauvre monsieur, se retrouve avec une gonorrhée.
C'était pas pour Hitler, là. C'était pour
photographe. C'est encore une fois, il y en a qui disent que c'est une histoire, ça, pour cacher que lui-même avait une maladie transmissible sexuellement. Okay. Mais bon. Mais l'histoire officielle, c'est que c'était pour son photographe et ami Henry Kaufmann.
OK.
Et il a réussi à guérir la gonorrhée de monsieur Hoffman très rapidement. Alors, Adolf Hitler est très impressionné. Parfait. Étant lui-même hypochondriaque et se considérant comme étant un être très malade, il demande conseil au docteur Morel.
Mm-hmm.
Il lui explique ses symptômes.
T'as-tu quoi pour moi?
C'est ça, t'as pas quelque chose, une petite prescription, rapide, pour ses maux de ventre principalement, ses gaz et ses périodes de dépression qu'il vit. Toujours souvent en lien avec des événements importants, donc on anticipe, on pense que ce serait de l'anxiété qui se manifesterait de cette manière-là chez Adolf Hitler. Bref, le docteur Morel commence à lui faire des traitements, des injections de produits assez impressionnants. Là. Je veux dire, des concoctions faites avec les organes sexuels de taureaux, des vitamines un peu étranges. Au travers de ça, il glisse de la procaïne qui est de la cocaïne finalement,
ou
un dérivé de la cocaïne, de la morphine, des amphétamines.
Il
bourre de toutes sortes de cochonneries comme ça. Et Adolf Hitler, étant donné que le lien est probablement psychologique beaucoup plus que physique de ces mots, il y a un effet placebo qui s'installe, il se met à aller mieux.
Ah ouais, OK.
Ah bon, docteur, je vais mieux. Mais je vais mieux, docteur, je vous veux comme ami. Et voilà, alors le docteur Morel devient très, très rapidement le confident et une personne qui va graviter autour d'Adolf Hitler jusqu'à sa mort. Parce qu'à ce moment-là, 1936, alors que Hitler subit des maux physiques, le docteur l'a guéri.
Ah ouais, puis à cette époque-là, c'était des recettes de médicaments non prescrites.
C'est ça.
Qui datent là, de 1939-1935. C'est clairement quelque chose qui était...
Ben, mettons que le docteur Morel, on le considérait dans le milieu médical comme étant un charlatan.
Ah, voilà.
Carrément un charlatan qui essayait des médicaments non testés. Il essayait n'importe quoi. Il faisait des concoctions. Il y avait des médicaments qui appelaient que c'était ses recettes secrètes. Et personne ne sait ce qu'il y avait dedans. Personne ne sait ce qu'il y avait dedans.
Puis c'était injecté en plus.
Oui, absolument. Il s'injectait là, et vers 1943, 3, si je me trompe pas, 1953, 1944, c'était rendu à 2 à 3 injections par jour. Alors, c'était plusieurs injections. On dit qu'à la fin, Hitler avait les bras tellement cicatrisés avec des ponctions d'aiguilles, on ne savait même plus où le piquer.
Ah, ouais, hein, je savais pas celle-là non plus.
Non, c'est ça. Non. Ça ressemble un peu à l'histoire d'Elvis, cette partie-là.
Ben oui, c'est ça.
Elvis a subi un peu la même chose. Et lui aussi est un grand anxieux, un grand malade. Et les médecins qui...
Qu'on droguait carrément d'une manière... pas légal, là, tu sais, mais quasiment,
non,
là, genre...
c'était, ouais, c'est ça, c'était des drogues de prescription qu'il prenait, qui, finalement, au bout de la ligne, avaient le même effet qu'une drogue illégale ou illicite, là.
Puis à l'époque, la méthamphétamine, tout ça, c'était légal.
Oui, ben, c'est ça, parce qu'on en donnait aux soldats.
C'est ça.
Les soldats prenaient ça parce que ça leur permettait de dormir moins longtemps, d'être plus agressifs. Alors, c'était la drogue miracle à l'époque.
Exactement.
On s'est rendu compte plus tard que ça avait des impacts assez épouvantables sur la santé.
Oui.
Mais Adolf Hitler en a bénéficié, lui aussi. Et plus ça allait, ben plus on dit qu'il y avait à peu près 77 drogues différentes qui ont été injectées cours de la relation entre le docteur Morel et Adolf Hitler. À peu près 77 drogues différentes. Ça passait des vitamines, il y avait des stimulants cardiaques, des stimulants comme les amphétamines par exemple. Il y avait des calmants comme la morphine, il y avait de la cocaïne, il y avait toutes sortes de... les cocktails épouvantables qu'il pouvait lui injecter. Et Adolf Hitler, étant donné que c'était un mal imaginaire, si on veut, ses symptômes physiques étaient vrais. Mais ça venait de sa tête, ben dès qu'il se faisait injecter, il allait mieux, parce que dans sa tête, j'ai eu mon médicament, je suis correct.
Ben c'est ça, ouais.
Alors là, ça calmait son anxiété, et il se mettait à aller mieux.
C'était un effet placebo, dans le fond.
Voilà, l'effet placebo était là. Alors le docteur Morel a continué à l'injecter comme ça jusqu'à sa mort.
Ah ouais.
Ça a été jusqu'à sa mort. Et quand on regarde un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on voit que la première moitié, donc du départ de la guerre jusqu'à à peu près 1942-1943, ça va quand même bien pour les Allemands.
Okay,
les conquêtes se font bien, la guerre éclair qui était le Blitzkrieg, là, c'est que eux arrivaient puis c'était bang, en quelques jours là, ils étaient rentrés dans le pays.
Oui,
c'était la guerre totale et complète là, on annihilait le pays complètement. Ça fonctionne. À cette époque-là, Hitler avait quand même une bonne relation avec ses généraux. L'armée a jamais aimé Adolf Hitler, ça, c'est clair là, dans les documents historiques. L'armée et Adolf Hitler, c'était le feu et l'eau. Adolf Hitler avait son armée personnelle, les SS.
Mm-hmm.
Il avait formé sa garde rapprochée, mais qui était très nombreuse. C'était une deuxième armée, si on veut. Et l'armée du pays n'appréciait pas ça.
OK, ouais.
Donc, j'ai toujours une relation un peu tendue entre les hauts gradés militaires et Adolf Hitler et le parti nazi, mais il était bien conseillé. Il se fiait à ses conseillers et ses stratégistes militaires et il engrangeait les succès. C'est la raison pour laquelle on l'a comparé à César à un certain moment donné. Mais à un moment donné, il devient erratique un peu. Il devient encore plus paranoïaque, commence à ne plus faire confiance à ses conseillers. Et c'est là que, soudainement, les victoires des Allemands commencent à se faire plus rares. Ça commence à aller moins bien un peu. Et on commence à avoir des défaites. Et là, on commence à reculer pour se retrouver finalement... à défendre le pays plutôt qu'à essayer d'en conquérir.
Exactement.
Donc, parce que c'est comme ça que ça a terminé. Et tout ça commence à peu près au moment où l'Allemagne pensait qu'en quelques mois, il pouvait envahir la Russie.
Ah ouais.
C'est pas arrivé.
Ben non. Puis on parle des problèmes mentaux d'Adolf Hitler.
Ben, c'est que plus le docteur Morel le médicamentait, plus son état dégénérait et plus les décisions étaient... un peu douteuse.
Ben, plus, tu sais, j'allais le dire de manière très crue, avec des gros mots, là, mais il devenait ben raide, là.
Il était plus là. En fait, on dit à la fin, là, en 1944, on arrivait avec des mauvaises nouvelles et il était euphorique. Il était comme content. Là, les gens, comme, ben oui, on vient de dire que là, ça va pas bien, là. Puis comment ça qu'il est comme ça? Il y avait des longues périodes qu'il était assis avec pas d'expression sur le visage, tremblait de partout, il était plus là.
Il était
plus là et il ne faisait plus confiance à personne, prenait des décisions lui-même et tenait ces décisions-là à la vie et à la mort.
C'est surprenant parce que ce que je trouve curieux là-dedans, c'est que dans la plupart des documentaires que j'ai vus sur Adolf Hitler, on en parle de ça, qui devient un peu fou, un peu de tout ça à partir de 1943 à peu près.
Ouais, à peu près.
Puis on ne parle pas vraiment, pas souvent en tout cas, pratiquement jamais, moi en tout cas j'ai jamais entendu parler du fait qu'Adolf Hitler était bourré de drogue, puis de cocaïne, puis d'amphétamine,
qui
se faisait injecter comme ça, alors que le lien est comme pas mal là.
Ben c'est qu'on voit, plus son état se dégrade, plus son état de santé physique et mentale se dégrade, plus ça devient difficile pour ses conseillers, les généraux, à réussir à garder un rythme militaire qui aurait pu permettre de conquérir là, l'Europe au grand complet et peut-être même venir en Amérique là, si ça s'était continué. Et que, parce qu'avec les succès qu'il y avait au départ, c'était incroyable. Là, c'était une traînée de poudre. Là, ça allait très, très vite. Et là, soudainement, première décision stratégique qui a fait mal aux Allemands, c'est l'invasion de la Russie. Oui. Les Allemands, je ne ferai pas un cours de stratégie, mais on voulait conquérir la France. On voulait conquérir la Pologne, on voulait à l'ouest ou dans la portion ouest de l'Europe, on voulait faire les premières conquêtes là. Une fois que ça s'était établi, on voulait partir vers l'est, s'en allant en Russie. On voulait pas avoir deux fronts en même temps. On voulait pas se battre à l'ouest et à l'est.
C'est ça.
Ça ira pas bien. On aurait divisé l'armée en deux. Donc, on a terminé du côté ouest et là, on s'en allait à l'est. Et là, on arrive en Russie puis on dit, quelques mois, ça va être fait. Tellement convaincu qu'on ne s'est pas préparé pour l'hiver.
Ouais.
Alors, on est arrivé en Russie convaincu qu'à l'automne, ce serait terminé et que là, on pourrait partir conquérir d'autres territoires. Mmh. Et finalement, quand on a fait face à l'armée russe, à Stalingrad, entre autres, le siège s'est installé et là, on est resté coincé là.
C'est
plus capable d'avancer. Et là, on s'est rendu compte que les Russes, malgré que leur équipement militaire était vraiment pas à la fine pointe comparé aux Allemands, il était coriace.
C'est ça, c'est une bataille qui a été parmi les... Je pense que c'est la bataille la plus meurtrière.
Ah, ça a été absolument incroyable là, à Stalingrad. Là, ça a été... C'est devenu... même Hitler l'a dit lui-même, c'est rendu une guerre sale. Il n'y a comme plus rien qui est interdit.
Ah, c'est ça. Puis les Russes, on attribue souvent la victoire de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis.
C'est pas du tout ça,
mais
malheureusement.
Non, exactement. On le sait qu'au coût de perte de vie humaine, c'est la Russie qui a donné le plus gros coup.
Absolument. Juste en les repoussant en dehors de la Russie, déjà là, ils venaient de déstabiliser complètement l'Allemagne, parce qu'à ce moment-là, on se retrouvait avec deux fronts. Et c'est ça, c'est une autre mauvaise décision d'Adolf Hitler.
Ouais.
Adolf Hitler, en tant que politicien et chef dictateur plutôt d'un pays, il a toujours dit, dès qu'il a pris le pouvoir en tant que dictateur, il a dit « Je vais conquérir des pays et jamais je ne vais déclarer la guerre. Je vais amener la guerre. » Si je décide que j'envahis la France, j'enverrai pas un communiqué pour dire « Hey, la France, je suis en guerre contre vous autres. » Non, non, je vais envoyer mes soldats, puis on va rentrer en France. Ils vont le savoir qu'ils sont en guerre, on va être là.
Okay,
je le dirai pas avant. Ben voyons donc, qui c'est qui marche de même?
C'est ça.
On y va, puis on les conquiert.
C'est comme ça qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ont été conquis du jour au lendemain.
Ils s'attendaient pas à ça, pantoute, eux autres. Il y avait comme une espèce de règlement
non écrit,
sous-entendu que ben fallait que tu dises j'ai l'intention de rentrer chez vous. Ben barrer à la porte. Là, t'avais pas le temps de barrer à la porte. Il était déjà rentré. Et il a toujours maintenu ça. Le problème avec ça, c'est que la seule fois qu'il a dérogé à sa propre règle, c'est là qu'il s'est retrouvé avec deux fronts, à devoir se battre à deux endroits
c'est
différents.
Ça.
Alors qu'il essayait encore de sauver les meubles en Russie, Pearl Harbor arrive.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui arrive à Pearl Harbor? Ben, c'est les Japonais qui ont attaqué les Américains. Mm-hmm. Ça fait le bonheur des généraux en Allemagne. Ils disent « Oh! Les États-Unis nous achaleront pas. Ils vont être occupés l'autre bord. Hey! » Quelques jours après, qu'est-ce qu'Adolf Hitler il fait? « Hey, les États! » Je vous déclare la guerre!
Ah ouais!
Et là, tout le monde est comme, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Qu'est-ce qu'il vient de faire là?
Ah ouais, il a fait ça, OK.
Ah oui, absolument. Alors ça, c'est une autre erreur stratégique majeure qu'il a fait. Et le problème avec les États-Unis, c'est que pendant une grande partie de la Première Guerre mondiale, ils sont restés neutres. Mais c'était une fausse neutralité parce qu'ils fournissaient des armes et de l'entraînement à la Grande-Bretagne, à la Russie, en France. Ils soutenaient les saboteurs en France, l'armée non officielle de la France qui essayait la France libre, qui essayait de saboter un peu les installations allemandes. Donc, il était pas tout à fait neutre. Il protégeait les convois britanniques. Et Adolf Hitler disait même, et ça, je suis resté surpris, mais il disait, vous ne touchez pas aux bateaux d'escorte américains. On veut pas qu'ils soient fâchés après nous autres.
Ah ouais.
Touchez pas à ça. Fait que s'ils protègent des convois britanniques puis qu'ils amènent de l'armement, faites rien. Touchez-les pas. Fait qu'ils acceptaient ça parce qu'ils voulaient pas fâcher les Américains. Mais après Pearl Harbor, ils leur déclarent la guerre. Et là, tout le monde a fait comme, ben là. Il vient de scraper notre party.
Ben oui,
là,
c'est ça. Le plan d'arriver comme ça dans les autres pays sans déclarer la guerre, mais d'être là à la place puis d'amener la guerre. Comme
ben c'est ça. Et la seule fois qu'il a fait une déclaration de guerre officielle et diplomatique, si on veut, c'est contre les États-Unis, alors que les États-Unis se préparaient, eux, à se concentrer sur le Japon.
Ah ouais, c'est ça.
Et là, finalement, ben, les États-Unis se sont concentrés sur l'Europe. Et finalement, bon, on sait ce qui est arrivé. Autre événement majeur qui est arrivé avant ça, autre décision stratégique catastrophique de Hitler, durant l'invasion de la France, les Britanniques ont dépêché une force expéditionnaire en France, plusieurs centaines de milliers de soldats pour dire « on va aller aider les Français
mm-hmm. ».
Ça n'a pas fonctionné, on le sait, la France a été envahie quand même assez rapidement. Et au moment d'envahir la France, les Allemands ont réussi à couper complètement la force britannique de toute forme de retraite.
Oui, c'était sûr qu'il était pris sur une plage.
Ouais, exactement. Dunkirk, il y a un film d'ailleurs là, qui a été fait dernièrement. Donc, les Britanniques sont pris sur la plage, peuvent pas se sauver. Et là, c'est des chars d'assaut, là. Il y en a partout.
Oui.
Les Allemands sont là. Ils peuvent les détruire.
Exactement. Il y aurait pu.
Complètement les détruire.
Il y aurait pu les anéantir à
absolument.
Ce moment-là, effectivement.
Comme ça, là, ça aurait été facile. Les forces britanniques étaient désorganisées, n'avaient plus de vivres, n'avaient plus de munitions. Ils étaient en catastrophe totale. Et Hitler fait quoi? Il prend le téléphone et il dit à ses forces, vous arrêtez. Vous restez là, vous bougez plus. Plus personne n'attaque personne, vous restez là. Ça l'a donné juste assez de temps aux Britanniques de se réorganiser sur la plage,
ben oui.
pouvoir se défendre, pendant que la Grande-Bretagne envoyait en catastrophe des bateaux pour aller les sauver.
Ben oui.
Alors là, quand finalement, ils disent « Ah, oh, ben ok, on va les détruire. Ok, allez-y. » Mais là, les forces sur la plage étaient prêtes à les repousser.
Ouais.
Et les bateaux sont arrivés, on a réussi à extraire les soldats britanniques et les sauver.
Fait que c'était un moment de confusion.
On ne sait pas exactement pourquoi il a fait ça. Il n'y a pas vraiment personne qui le sait. La seule indice qu'on a, c'est que dans son livre, il dit que l'Allemagne va pouvoir dominer l'Europe, mais que ce sera en collaboration avec la Grande-Bretagne.
OK.
Il respecte la Grande-Bretagne.
C'est comme ça.
Il dit que c'est comme le gardien du monde, la Grande-Bretagne. Il ne veut pas aller en guerre contre eux. C'est la seule explication qu'on a.
OK.
Si on détruit complètement leur armée, ils vont peut-être être fâchés.
Fait qu'il y avait peut-être, je comprends, peut-être que son plan c'était qu'à long terme, après la victoire.
Il allait pouvoir, lui, il voulait signer la paix avec la Grande-Bretagne et peut-être même en faire un allié.
C'est ça, je comprends.
Alors, c'est peut-être son désir de dire si je les épargne, ça a l'air d'une décision un peu confuse, puis après ça, moi, je vais pouvoir y aller et dire hein.
Je vous ai épargné à Dunkerque.
C'est ça. J'ai fait attention à vous autres. Hein? Ah. Mais là, c'est à votre tour.
C'est clair que peut-être à long terme, il voulait préparer une certaine alliance, tenter le terrain pour éventuellement peut-être les avoir de son bord.
Donc ça, est-ce que c'est une décision stratégique qui a mal viré? Est-ce que c'est parce qu'il était confus? Parce que ça faisait déjà quelques années, le docteur Morel le traitait.
Ouais,
là,
c'est
déjà,
ça.
Là, à Dunkerque, ça s'est passé au mois de mai 1940. Là, fait que ça faisait quelques années déjà. Mais la plupart disent non, ça c'est peut-être plus une décision stratégique qui a mal viré.
Mm-hmm.
Parce que c'était pas le génie militaire Adolf Hitler comme on l'a présenté souvent. C'était ses conseillers. C'était pas un deux de pique non plus, là. C'était pas un imbécile. Mais c'était pas non plus un génie comme on a voulu le présenter. Autre décision d'Adolf Hitler, que celle-là, vraiment, ça a été un point tournant durant la Deuxième Guerre mondiale, à l'invasion de la Normandie.
Oui.
Donc là, on a des milliers de soldats qui vont débarquer sur les plages de la Normandie.
Le fameux jour J.
Le jour J, qui s'est passé là, au mois de juin 1944. On arrive et on débarque et on réussit assez rapidement à prendre le contrôle de la plage et même à rentrer, là, je pense, à 12 km là, dans les terres. D'ailleurs, je pense que c'est un détachement du Royal de Sherbrooke qui a été le seul à atteindre son objectif cette journée-là. À réussir à se rendre à l'endroit qui était prévu. Les autres n'ont pas réussi à se rendre si loin que ça. Mais il me semble qu'on a un char d'assaut à quelque part à Sherbrooke qui remémore que ce char d'assaut-là, lui, il s'est rendu à son objectif cette journée-là. Bref, les Américains, les Britanniques, les Canadiens, les Australiens, il y a plein de détachements de plein de pays alliés qui rentrent en force en France.
Exact, oui.
La raison pour laquelle on a réussi à rentrer de manière facile, on va dire facile parce que ça aurait pas dû être facile. Ça aurait même pu échouer complètement. Et finalement, on a réussi quand même de manière relativement facile à rentrer en Normandie. C'est une erreur stratégique très grave d'Adolf Hitler. Et là, elle lui revient à 100% cette décision-là. Premièrement, les Alliés ont eu l'idée géniale de dire « On va déplacer des forces pour préparer une invasion à Pas-de-Calais. »
Oui, ça, je l'avais entendu parler.
Pas-de-Calais, qui est une autre ville côtière de la France. Et on se prépare à rentrer à Pas-de-Calais. Mais c'est pas vrai. C'était des faux tanks.
C'est ça.
C'était des constructions en bois, en toile,
exactement,
en caoutchouc. Mais on a tout mis ça prêt à partir pour Pas-de-Calais. Fait que déjà en partant, on a créé une espèce de diversion.
Mm-hmm.
Donc Adolf Hitler, lui, convaincu que ça allait être à Pas-de-Calais, il était convaincu avant même qu'on fasse ça. On a capitalisé sur sa croyance originale qui était « ils vont envahir à Pas-de-Calais ». On a dit « ok, ils pensent ça, on va lui donner raison ». On a préparé une fausse invasion. Il a déplacé ses forces d'élite qui étaient en Normandie à Pas-de-Calais.
Ah ouais.
Et il les a stationnés là. Il a laissé des vétérans, des vieux et des conscrits en Normandie, convaincus que ça n'arriverait pas.
OK.
Les constructions de défense, parce qu'il y avait des défenses côtières très, très perfectionnées que les Allemands avaient installées, n'étaient pas terminées en Normandie, mais on a concentré les forces et les constructions sur Pas-de-Calais.
OK.
Encore une fois, convaincus que c'est là que ça allait arriver.
Ben oui.
Arrive le débarquement de Normandie, les soldats débarquent sur la plage, ont réussi à prendre le contrôle de la plage de manière quand même des combats très difficiles. Il y a eu énormément de morts. Là. Je ne dis pas que ça a été facile, en trois minutes, c'était fini, mais on a pris le contrôle et même les alliés étaient comme il me semble que ça a été ça a pas été aussi dur qu'on pensait.
Ouais.
Il y a quelque chose qui se passe. Pendant ce temps-là, il y a les soldats élites qui sont à Pas-de-Calais, les tanks qui sont à Pas-de-Calais, des régiments de tanks avec des soldats là, absolument incroyables qui sont à Pas-de-Calais à se tourner les pouces, à fumer des cigarettes, à jouer au poker, pendant qu'en Normandie, les petites forces, les vieux de l'armée, puis les jeunes de l'armée, puis les conscrits se font massacrer par les alliés. Eux autres sont là, puis ils se tournent les pouces.
OK, ouais.
Et là, tout le monde dit, déplace tes forces,
ben,
ils rentrent là!
C'est ça que je pensais, tu sais.
Pas du tout. Il a refusé de déplacer, convaincu pendant plusieurs semaines qu'il y avait une deuxième invasion qui s'en venait à Pas-de-Calais,
ouais,
qui était encore plus grosse que celle qui est arrivée en Normandie. Alors, pendant ce temps-là, les alliés ont eu le chemin relativement libre, parce qu'une grosse partie des forces armées allemandes étaient à Pas-de-Calais. Ils ont réussi à rentrer de manière relativement facile, alors qu'à Pas-de-Calais, les meilleurs soldats de l'armée qui étaient en France se tournaient les pouces et attendaient l'ordre d'aller aider, qui est jamais venu.
Je pensais que dès que les soldats étaient arrivés en Normandie, Hitler avait tout de suite dit à ses troupes « Ah, on s'est fait avoir tout le monde en Normandie! »
Il est resté convaincu pendant longtemps qu'il y avait une autre attaque qui s'en venait à Pas-de-Calais.
Ah, ouais.
Il disait « Je vais avoir raison, vous allez voir, ils vont tenter de rentrer à Pas-de-Calais. » C'est là qu'on va se faire avoir. Faut qu'on reste là. Faut qu'on protège cette entrée-là. Et c'est jamais arrivé.
C'est fou parce que ça a quand même permis aux lignes alliées de progresser assez loin dans les frontières.
Oui, puis d'aller libérer Paris de manière quand même assez rapide
c'est
par
ça.
La suite.
Exact.
Alors que Adolf Hitler lui restait convaincu que ça allait arriver à Pas-de-Calais. Ben,
peut-être toutes des erreurs stratégiques militaires qui pourrait peut-être avoir été causé par...
En tout cas, on pense qu'il y a eu une partie, la deuxième moitié de la Deuxième Guerre mondiale, les deux dernières années de la Deuxième Guerre mondiale, ou de la guerre avec l'Allemagne, où là, Adolf Hitler devenait erratique.
Ben oui.
Il était plus là, avait des difficultés à réfléchir, des difficultés à prendre des décisions, était excessivement irritable, était toujours en colère après ses collaborateurs. Il a fait des purges internes également.
C'est clair que l'injection de tous ces drogues-là, dans le corps...
Ça n'agande son homme.
Ben oui, c'est clairement destructeur. Là. Il était clairement plus l'homme... justement comme
espèce de, il y avait un prestige, même si on le détestait, il y avait quand même une prestance qui fallait reconnaître là. Il avait plus ça du tout là, il tremblait de partout, c'est ça, des fois là, il pouvait passer des heures assis à regarder le sol, pas d'expression, rien dire, il bougeait plus, il était rendu pas mal proche d'être légume. D'ailleurs, les dernières images qui ont été tournées d'Adolf Hitler, qui sont deux ou trois jours avant son suicide, alors que l'Allemagne est en train de se faire mettre à feu et en sang par les soviétiques et les alliés qui commencent à rentrer aussi, on le voit avec des jeunes, de très très jeunes soldats, jeunes là, des adolescents et des préadolescents là, qui sont la dernière ligne de défense de l'Allemagne finalement. Et sur ces images-là, on peut voir qu'il a les premiers symptômes de la maladie de Parkinson.
Ah ouais.
Alors son cerveau est probablement sur le point d'être détruit à ce point-là. Et il tremble, il a l'air d'avoir 10-20 ans plus vieux que son âge réel. Il n'est même pas l'ombre de lui-même là, sur ces images-là. Et c'est les dernières images qu'on a d'Adolf Hitler, de son vivant. Par la suite, bon, c'est là, ce qu'on dit, c'est qu'il s'est donné la mort. Il a marié Eva Braun, finalement, et il s'est donné la mort par la suite. Elle aurait pris du cyanure, si je me trompe pas. Lui, se serait tué avec une arme à feu. Et ça a été la fin d'Adolf Hitler. Mais il y a comme plein de petits éléments comme ça de sa vie, des tout petits moments. C'est comme des photos. Moi, je vois ça comme des photos dans sa vie, de tout, des petits moments très précis où on se dit, ben, finalement... Il était peut-être pas si plus grand que nature que ça. Il était bien ordinaire.
C'est ça.
Ses angoisses, sa peur d'être malade lui a fait prendre des décisions médicales très douteuses.
Ben
parce
que
il prenait des médicaments, mais il y avait des médicaments prescrits. Il en prenait beaucoup plus que ce que le médecin, même le médecin charlatan lui disait, t'en prends 5 par jour, il en prenait 10.
Ah ouais, c'est
ça. Donc lui-même s'entraînait là-dedans. C'était pas juste le médecin qui imposait des médicaments ou des injections. Il en prenait lui-même de son plein gré. Et a fini par détruire sa santé physique et mentale. Et ben on pense que oui, à un moment donné, quand il a commencé à arrêter d'écouter ses généraux, ses conseillers, il s'est mis à prendre des décisions par lui-même, convaincu qu'il était meilleur que tout le monde. Et ça a été des décisions qui ont pu être catastrophiques, comme par exemple l'invasion de la Normandie, qui aurait pu être beaucoup plus difficile s'il avait laissé ses troupes d'élite en Normandie plutôt que les déplacer à Pas-de-Calais. S'il les avait déplacés au début de l'invasion aussi, ça aurait pu faire une différence. Alors qu'il a continué à dire non, on les bouge pas de là, je le sais qu'ils s'en viennent. Mmh. Et c'est jamais arrivé, évidemment. Je sais pas s'il est mort avec la croyance qu'elle a encore à avoir des forces qu'elle a rentrées à Pas-de-Calais. Mais finalement, il a eu tort à plusieurs reprises.
Ben oui.
Mais ce qu'on se souvient de lui, bon, c'est la guerre éclair. C'est quand il est rentré en Pologne, en Allemagne. Pas en Allemagne, mais en France. Ça a été là, c'était spectaculaire la manière que l'armée arrivait. C'était une machine rodée là, mais rodée avec des frappes aériennes qui étaient coordonnées avec l'arrivée des tanks, des blindés légers. L'infanterie arrivait en arrière, la ville était déjà détruite. On arrivait, on sécurisait le tout, on passait à la prochaine ville. Là, c'était pas oh, ben là on est installé, on est non non c'est fini ici, parfait, on s'en va à la prochaine ville, on s'en va à la prochaine, on s'en va à la prochaine. Et ça arrêtait pas jusqu'à ce que le pays abandonne complètement, dise ok wow.
Ben, c'est ça.
Fini là.
Exact.
Fini. Je tape trois fois là. C'est fini.
Dans la dominance rapide au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand on voit l'expansion des nazis en Europe, ça se passe en un claquement,
un claquement
d'œil.
Ça l'a pris tout le monde par surprise.
Mm-hmm.
Et finalement, ben c'est ça. À un moment donné, ça l'a stagné. L'invasion de la Russie qui a été un point tournant pour les Allemands qui, à partir de là, ont commencé à avoir de la difficulté. Et c'est à partir de là aussi que Hitler commence à avoir des comportements très erratiques.
Ben, c'est incroyable. 53 minutes, Jason.
Ben ouais, puis
on pourrait continuer.
On a parlé de juste quelques petits événements
c'est
comme ça.
La Seconde Guerre mondiale, c'est incroyable hein, au niveau historique. Là, il y a tellement de choses à dire. Il y a du monde qui étudie la Seconde Guerre depuis qui ont 12 ans, qui continue, qui ont 70
ils
ans.
Ils n'auront jamais fait le tour.
Exactement.
C'est une source infinie.
Mais il y a plein de choses que j'ignorais là-dedans.
Ben, c'est le fun, moi aussi, j'ai appris plein de choses en faisant ça. Je savais pas trop dans quelle direction je m'en allais. Je voulais faire de quoi de plus terre à terre avec les nazis, mais on avait fait de quoi de très mystique et flyé. Je disais, on va faire de quoi de plus terre à terre. Bon, il y a la machine Enigma qui était la machine pour encoder. Il y a un film d'ailleurs qui a été fait là, sur comment on a décodé cette machine-là avec les premiers ordinateurs en Grande-Bretagne. Ça a été l'inventeur de l'ordinateur, en fait, là, qui a réussi à décoder. Il y a plein d'événements comme ça qu'on pourrait faire un épisode complet juste sur ce sujet-là.
Ben oui, c'est ça.
Je savais pas trop dans quelle direction ça allait aller. Finalement, c'est ça. Quand j'ai commencé à trouver des petits faits comme ça sur Adolf Hitler, je me suis dit, ça l'humanise un peu. Ça l'enlève l'aura d'invincibilité qu'il y avait autour de lui, puis ça le ramène à il pétait puis ça puait lui aussi.
C'est ça.
Ben ordinaire comme monsieur.
Exactement. Ben, c'était très intéressant. Le dossier, Jason, très
ben,
cool.
Hey, c'était bien le fun.
Puis, ben, on le rappelle, hein, moi, j'ai aucune partisanerie envers ce méchant personnage. On en parle d'une manière complètement historique. Et moi, personnellement, ben,
c'était un malade.
C'est ça.
C'était un fou, un psychopathe, c'était un tyran, c'était un dictateur. C'était un meurtrier à grande échelle.
Le pire,
mais en même temps, c'est qu'on voit que c'est ça. C'est un homme aussi bien ordinaire.
C'est ça, exactement. Ouais, incroyable.
Oh, c'était éveillé, ça.
Ouais. Merci beaucoup, Jason Leval.
Ça me fait plaisir.
De nous avoir donné tous ces détails. Et on vous invite à liker notre page Facebook, à partager les podcasts, à en parler. Et on va publier, là, encore une fois, des petites blagues, des fois, sur notre page Facebook.
Ouais, c'est toujours le fun.
Ça nous arrive. Alors, on vous souhaite une excellente journée.
Ben oui, bye bye.
À la prochaine.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Oh non, Internet a encore planté. Va encore falloir que j'appelle le service technique.
Le temps d'attendre pour parler à l'un de nos conseillers est de 3 heures.
3 heures plus tard.
Oui, bonjour, bienvenue chez Internet Québec. Comment peux-je vous aider? Allô? Bon, ben ça a l'air qu'il y a personne.
Pour un service Internet fiable et près de chez vous, faites affaire avec la RTC. Internet, télé, téléphone. Prenez les trois services pour économiser. 418-538-2451. Ou en personne au 992 rue du Boulot, Havre-Saint-Pierre.